Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un deuxième extrait du roman de George Orwell, 1984. La musique choisie est de Mosoloff, l'opus 19, The Iron Foundry. La chanson de Brigitte Fontaine, Cet enfant que tu m'avais fait. Les membres du parti, normalement, ne devaient pas entrer dans les boutiques ordinaires. Cela s'appelait « acheter au marché libre ». Mais la règle n'était pas strictement observée, car il y avait différents articles, tels que les lacets de souliers, les lames de rasoir, sur lesquels il était impossible de mettre la main autrement. Il avait d'un rapide coup d'œil parcouru la rue de haut en bas, puis s'était glissé dans la boutique et avait acheté le livre 2,50 $. Il n'avait pas conscience à ce moment-là que son désir impliquât un but déterminé. Comme un criminel, il avait emporté dans sa serviette ce livre qui, même sans aucun texte, était compromettant. Ce qu'il allait commencer, c'était son journal. Ce n'était pas illégal. Rien n'est illégal puisqu'il n'y avait plus de loi. Mais s'il était découvert, il serait sans aucun doute puni de mort ou de 25 ans au moins de travaux forcés dans un camp. Winston adapta une plume au porte-plume et la suça pour en enlever la graisse. Une plume était un article archaïque, rarement employé même pour les signatures. Il s'en était procuré une furtivement et avec quelques difficultés, simplement parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux appelé le tracé d'une réelle plume plutôt que les éraflures d'un crayon à encre. À vrai dire, il n'avait pas l'habitude d'écrire à la main. En dehors de très courtes notes, il était d'usage de tout dicter au phonoscript, ce qui, naturellement, était impossible pour ce qu'il projetait. Il plongea la plume dans l'encre, puis hésita une seconde. Un tremblement lui parcourait les entrailles. Faire un trait sur le papier était un acte décisif. En petites lettres maladroites, il écrivit « 4 avril 1984 ». Il se redressa. Un sentiment de complète impuissance s'était emparé de lui. Pour commencer, il n'avait aucune certitude que ce fût vraiment 1984. On devait être aux alentours de cette date, mais il était sûr d'avoir 39 ans et il croyait être né en 1944 ou en 1945. Mais par les temps qui couraient, il n'était pas possible de fixer une date qu'à 1 ou 2 ans près. Pour qui écrivait-il ce journal? Cette question brusquement s'imposa à lui. Pour l'avenir? Pour des gens qui n'étaient pas nés? Son esprit erra un moment autour de la date approximative écrite sur la page, puis bondit sur un mot novlangue. Double pensée. Pour la première fois, l'ampleur de son entreprise lui apparut. Comment communiquer avec l'avenir? C'était impossible intrinsèquement. Où l'avenir ressemblerait au présent et on ne l'écouterait pas, ou il serait différent et son enseignement, dans ce cas, n'aurait aucun sens. Pendant un moment, il fixa stupidement le papier. L'émission du télécran s'était changée en une stridente musique militaire. Winston semblait non seulement avoir perdu le pouvoir de s'exprimer, mais avoir même oublié ce qu'il avait d'abord eu l'intention de dire. Depuis des semaines, il se préparait à ce moment et il ne lui était jamais venu à l'esprit que ce dont il aurait besoin, c'était de courage. Écrire était facile. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était transcrire l'interminable monologue ininterrompu qui, littéralement depuis des années, se poursuivait dans son cerveau. En ce moment, cependant, même le monologue s'était arrêté. Par-dessus le marché, son ulcère variqueux commençait à le démanger d'une façon insupportable. Il n'osait pas le gratter car l'ulcère s'enflammait toujours lorsqu'il y touchait. Les secondes passaient. Winston n'était conscient que du vide de la page qui était devant lui, de la démangeaison de sa peau au-dessus de la cheville, du beuglement de la musique et de la légère ivresse provoquée par le gin. Il se mit soudain à écrire, dans une véritable panique, imparfaitement conscient de ce qu'il couchait sur le papier. Minuscule, quoique enfantine, son écriture montait et descendait sur la page, abandonnant d'abord les majuscules, finalement même les points. 4 avril 1984. Hier, soirée au ciné. Rien que des films de guerre. Un très bon film montrait un navire plein de réfugiés bombardés quelque part dans la Méditerranée. Auditoire très amusé par les tentatives d'un gros homme gras qui essayait d'échapper en nageant à la poursuite d'un hélicoptère. On le voyait d'abord se vautrer dans l'eau comme un marsouin, puis on l'apercevait à travers le viseur du canon de l'hélicoptère. Il était ensuite criblé de trous et la mer devenait rose autour de lui. Puis il sombrait aussi brusquement que si les trous avaient laissé l'eau pénétrer. Le public riait à gorge déployée quand il s'enfonça. On vit ensuite un canot de sauvetage, plein d'enfants, que survolait un hélicoptère. Une femme d'âge moyen, qui était peut-être une juive, était assise à l'avant, un garçon d'environ 3 ans dans les bras. Petit garçon criait de frayeur et se cachait la tête entre les seins de sa mère comme s'il essayait de se terrer en elle. Et la femme l'entourait de ses bras et le réconfortait, alors qu'elle était, elle-même, verte de frayeur. Elle le recouvrait autant que possible, comme si elle croyait que ses bras pourraient écarter de lui les balles. Ensuite, l'hélicoptère lâcha sur eux une bombe de 20 kilos qui éclata avec un éclair terrifiant, et le bateau vola en éclats. Il y eut ensuite l'énorme projection d'un bras d'enfant montant droit dans l'air. Un hélicoptère muni d'une caméra a dû le suivre, et il y eut des applaudissements nourris venant des fauteuils. Mais une femme qui se trouvait au poulailler s'est mise brusquement à faire du bruit en frappant du pied et en criant « On ne doit pas montrer ça devant les petits, on ne doit pas, ce n'est pas bien, pas devant les enfants, ce n'est pas... » jusqu'à ce que la police la saisisse et la mette à la porte. Je ne pense pas qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit. Personne ne s'occupe de ce que disent les prolétaires. Les typiques réactions prolétaires, jamais on... Winston s'arrêta d'écrire, en partie parce qu'il souffrait d'une crampe. Il ne savait ce qui l'avait poussé à déverser ce torrent d'absurdité, mais le curieux était que, tandis qu'il écrivait, un souvenir totalement différent s'était précisé dans son esprit, au point qu'il se sentait presque capable de l'écrire. Il réalisait maintenant que c'était à cause de cet autre incident qu'il avait soudain décidé de rentrer chez lui et de commencer son journal ce jour-là. Cet incident avait eu lieu le matin au ministère, si l'on peut dire d'une chose si nébuleuse qu'elle a eu lieu. Il était presque 11 heures, et au commissariat aux archives où travaillait Winston, on tirait les chaises hors des bureaux pour les grouper au centre du hall, face au grand télécran, afin de préparer les 2 minutes de la haine. Winston prenait place dans un des rangs du milieu quand deux personnes qu'il connaissait de vue, mais à qui il n'avait jamais parlé, entrèrent dans la salle à l'improviste. L'une était une fille qu'il croisait souvent dans les couloirs. Il ne savait pas son nom, mais il savait qu'elle travaillait au commissariat au roman. Il l'avait parfois vue avec des mains huileuses et tenant une clé anglaise. Elle s'occupait probablement à quelque besogne mécanique sur l'une des machines à écrire des romans. C'était une fille d'aspect hardi, d'environ 27 ans, aux épais cheveux noirs, au visage couvert de taches de rousseur, à l'allure vive et sportive. Une étroite ceinture rouge, emblème de la Ligue antisexe des juniors, plusieurs fois enroulée à sa taille, par-dessus sa combinaison, était juste assez serrée pour faire ressortir la forme agile et dure de ses hanches. Winston l'avait détestée dès le premier coup d'œil. Il savait pourquoi. C'était à cause de l'atmosphère de terrain de hockey, de bains froids, de randonnées en commun, de rigoureuse propreté morale qu'elle s'arrangeait pour transporter avec elle. Il détestait presque toutes les femmes, surtout celles qui étaient jeunes et jolies. C'était toujours les femmes, et spécialement les jeunes, qui étaient les bigotes du parti, avaleuses de slogans, espionnes amateurs, dépisteuses d'hérésie. Mais cette fille en particulier lui donnait l'impression qu'elle était plus dangereuse que les autres. Une fois, alors qu'ils se croisaient dans le corridor, elle lui avait lancé un rapide regard de côté qui semblait le transpercer et l'avait rempli un moment d'une atroce terreur. L'idée lui avait même traversé l'esprit qu'elle était peut-être un agent de la police de la pensée. C'était à vrai dire très improbable. Néanmoins, il continuait à ressentir un malaise particulier, fait de frayeur autant que d'hostilité, chaque fois qu'elle se trouvait près de lui quelque part. L'autre personne était un homme nommé O'Brien, membre du parti intérieur. Il occupait un poste si important et si élevé que Winston n'avait qu'une idée obscure de ce qu'il pouvait être. Un silence momentané s'établit dans le groupe des personnes qui entouraient les chaises quand elle vit rapprocher sa combinaison noire, celle d'un membre du parti intérieur. O'Brien était un homme grand et corpulent, au cou épais, au visage rude, brutal et caustique. En dépit de cette admirable apparence, il avait un certain charme dans les manières. Il avait une façon d'assurer ses lunettes sur son nez qui était curieusement désarmante, et d'une manière indéfinissable, curieusement civilisée. C'était un geste qui, si quelqu'un pouvait encore penser en termes semblables, aurait rappelé celui d'un homme du 18e offrant sa tabatière. Winston avait vu O'Brien une douzaine de fois, peut-être, dans un nombre presque égal d'années. Il se sentait vivement attiré par lui. Ce n'était pas seulement parce qu'il était intrigué par le contraste entre l'urbanité des manières d'O'Brien et son physique de champion de lutte. C'était beaucoup plus à cause de la croyance secrète, ce n'était peut-être même pas une croyance mais seulement un espoir, que l'orthodoxie de la politique d'O'Brien n'était pas parfaite. Quelque chose dans son visage le suggérait irrésistiblement. Mais peut-être n'était-ce même pas la non-orthodoxie qui était inscrite sur son visage, mais simplement l'intelligence. De toute façon, il paraissait être quelqu'un à qui l'on pourrait parler si l'on pouvait duper le télécran et le voir seul. Winston n'avait jamais fait le moindre effort pour vérifier cette supposition. En vérité, il n'y avait aucun moyen de la vérifier. O'Brien, à ce moment, regarda son bracelet-montre, vit qu'il était près de 11 heures et décida de toute évidence de rester dans le commissariat aux archives jusqu'à la fin des 2 minutes de la haine. Il prit une chaise, sur le même rang que Winston, 2 places plus loin. Une petite femme rousse, qui travaillait dans la cellule voisine de celle de Winston, les séparait. La fille aux cheveux noirs était assise immédiatement derrière eux. Un instant plus tard, un horrible crissement, comme celui de quelque monstrueuse machine tournant sans huile, éclata dans le grand télécran du bout de la salle. C'était un bruit à vous faire grincer des dents et à vous hérisser les cheveux. La haine avait commencé. Cet enfant que tu m'avais fait, pas le premier, mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Ce bel enfant au corps tout blanc, te souviens-tu? Offrez-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête, j'ai tout mon temps pour aujourd'hui. Que disiez-vous?
Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont importants.